Chapitre 14. Comment il se fit que M. de Beaucire, en croyant chasser le lièvre, fut chassé lui-même par les agents de M. de Crône. Les tourtereaux sont mis en cage. Madame de Lamotte fut incarcérée, comme l'avait voulu la reine. Aucune compensation ne parut plus agréable au roi qui haïssait instinctivement cette femme. Le procès s'instruisit sur l'affaire du collier avec toute la rage que peuvent mettre des marchands ruinés qui espèrent se tirer d'embarras, des accusés qui veulent se tirer de l'accusation et des juges populaires qui ont dans les mains l'honneur et la vie d'une reine, sans compter l'amour-propre ou l'esprit de parti. Ce ne fut qu'un cri par toute la France. Aux nuances de ce cri, la reine put reconnaître ou compter ses partisans ou ses ennemis. Depuis qu'il était incarcéré, M. de Rohan demandait instamment à être confronté avec Madame de Lamotte. Cette satisfaction lui fut accordée. Le prince vivait à la Bastille comme un grand seigneur dans une maison qu'il avait louée. Hormis la liberté, tout lui était accordé sur sa demande. Ce procès avait pris dès l'abord des proportions mesquines, eu égard à la qualité des personnes incriminées. Aussi s'étonnait-on qu'un Rohan pût être inculpé pour vol. Aussi les officiers et le gouverneur de la Bastille témoignaient-ils au cardinal toute la déférence, tout le respect dû au malheur. Pour eux, ce n'était pas un accusé, mais un homme en disgrâce. Ce fut bien autre chose lorsqu'il fut répandu dans le public que M. de Rohan tombait victime des intrigues de la cour. Ce ne fut plus pour le prince de la sympathie, ce fut de l'enthousiasme. Et M. de Rohan, l'un des premiers parmi les nobles de ce royaume, ne comprenait pas que l'amour du peuple lui venait uniquement de ce qu'il était persécuté par plus noble que lui. M. de Rohan, dernière victime du despotisme, était de fait l'un des premiers révolutionnaires de France. Son entretien avec Madame de Lamotte fut signalé par un incident remarquable. La comtesse, à qui l'on permettait de parler bas toutes les fois qu'il s'agissait de la reine, réussit à dire au cardinal « Éloignez tout le monde et je vous donnerai les éclaircissements que vous demandez. » Alors M. de Rohan désira d'être seul et de l'interroger à voix basse. On le lui refusa, mais on laissa son conseil s'entretenir avec la comtesse. Quant au collier, elle répondit qu'elle ignorait ce qu'il était devenu, mais qu'on aurait bien pu le lui donner à elle. Et comme le conseil se récriait, étourdi de l'audace de cette femme, elle lui demanda si le service qu'elle avait rendu à la reine et au cardinal ne valait pas 1 million. L'avocat répéta ces mots au cardinal, sur quoi celui-ci pâlit, baissa la tête et devina qu'il était tombé dans le piège de cet infernal oiseleur. Mais il pensait déjà, lui, à étouffer le bruit de cette affaire qui perdait la reine. Ses ennemis, ses amis, le poussaient à ne pas interrompre les hostilités. On lui objectait que son honneur était en jeu, qu'il s'agissait d'un vol, que, sans l'arrêt du Parlement, l'innocence n'était pas prouvée. Or, pour prouver cette innocence, il fallait prouver les rapports du cardinal avec la reine et prouver par conséquent le crime de celle-ci. À cette réflexion, Jeanne répliqua qu'elle n'accuserait jamais la reine non plus que le cardinal, mais que si on persévérait à la rendre responsable du collier, ce qu'elle ne voulait pas faire, elle le ferait, c'est-à-dire qu'elle prouverait que reine et cardinal avaient intérêt à accuser de mensonge. Lorsque ces conclusions furent communiquées au cardinal, le prince témoigna tout son mépris pour celle qui parlait de le sacrifier ainsi. Il ajouta qu'il comprenait jusqu'à un certain point la conduite de Jeanne, mais qu'il ne comprenait pas du tout celle de la reine. Ces mots rapportés à Marie-Antoinette et commentés l'irritaient et la faisaient bondir. Elle voulut qu'un interrogatoire particulier fût dirigé sur les parties mystérieuses de ce projet. Le grand grief des entrevues nocturnes apparut alors, enveloppé dans son plus large jour par les calomniateurs et les faiseurs de nouvelles. Mais ce fut alors que la malheureuse reine se trouva menacée. Jeanne affirmait ne pas connaître ce dont on lui parlait, et cela devant les gens de la reine. Mais vis-à-vis des gens du cardinal, elle n'était pas aussi discrète et répétait toujours « Qu'on me laisse tranquille, sinon je parlerai ». Ses réticences, ses modesties l'avaient posée en héroïne et embrouillaient si bien le procès que les plus braves éplucheurs de dossiers frémissaient en consultant les pièces et que nul juge instructeur n'osait poursuivre les interrogatoires de la comtesse. Le cardinal fut-il plus faible, plus franc? Avoua-t-il à quelque ami ce qu'il appelait son secret d'amour? On ne sait. On ne doit pas le croire, car c'était un noble cœur bien dévoué que celui du prince. Si loyal qu'il eût été dans son silence, le bruit se répandit de son colloque avec la reine. Tout ce que le comte de Provence avait dit, tout ce que Charny et Philippe avaient su ou vu, tous ces arcanes inintelligibles pour tout autre qu'un prétendant comme le frère du roi ou des rivaux d'amour comme Philippe et Charny, tout le mystère de ces amours si calomniés et si chastes s'évapora comme un parfum et, fondu dans la vulgaire atmosphère, perdit l'arôme illustre de son origine. On pense si la reine trouva de chauds défenseurs, si monsieur de Rohan trouva de zélés champions. La question n'était plus celle-ci. La reine a-t-elle volé ou non un collier de diamants? Une question assez déshonorante en elle-même pourtant, mais cela ne suffisait même plus. La question était, la reine a-t-elle dû laisser voler le diamant par quelqu'un qui aurait pénétré le secret de ses amours adultères? Voilà comment madame de Lamotte était parvenue à tourner la difficulté. Voilà comment la reine se trouvait engagée dans une voie sans autre issue que le déshonneur. Elle ne se laissa pas abattre, elle résolut de lutter. Le roi la soutint. Le ministère aussi la soutint, et de toutes ses forces. La reine se rappela que monsieur de Rohan était un honnête homme, incapable de vouloir perdre une femme. Elle se rappela son assurance quand il jurait avoir été admis au rendez-vous de Versailles. Elle conclut que le cardinal n'était pas son ennemi direct, et qu'il n'avait comme elle qu'un intérêt d'honneur dans la question. On dirigea dès lors tout l'effort du procès sur la comtesse, et l'on chercha activement les traces du collier perdu. La reine, acceptant le débat sur l'accusation de faiblesse adultère, rejetait sur Jeanne la foudroyante accusation du vol frauduleux. Tout parlait contre la comtesse, ses antécédents, sa petite misère, son élévation étrange. La noblesse n'acceptait pas cette princesse de hasard, le peuple ne pouvait la revendiquer. Le peuple hait d'instinct les aventuriers, il ne leur pardonne même pas le succès. Jeanne s'aperçut qu'elle avait fait fausse route, et que la reine, en subissant l'accusation, en ne cédant pas à la crainte d'un bruit, engageait le cardinal à l'imiter, que les deux loyautés finiraient par s'entendre et par trouver la lumière, et que, même si elle succombait, ce serait dans une chute terrible qu'elle broierait sous elle la pauvre petite Valois, princesse d'un million volé, qu'elle n'avait même plus sous la main pour corrompre ses juges. On en était là quand un nouvel épisode se produisit qui changea la face des choses. Monsieur de Beaucire et Mademoiselle Oliva vivaient, heureux et riches, dans le fond d'une maison de campagne, quand un jour, monsieur, qui avait laissé Madame Ogis pour s'en aller chasser, tomba dans la société de deux agents de monsieur de Crône, que monsieur de Crône éparpillait par toute la France pour obtenir un dénouement à cette intrigue. Les deux amants ignoraient tout ce qui se passait à Paris. Ils ne songeaient guère qu'à eux-mêmes. Mademoiselle Oliva, qui engraissait comme une belette dans un grenier, et monsieur Beaucire, avec le bonheur, avaient perdu cette inquiète curiosité, signe distinctif des oiseaux voleurs comme des hommes de proie, caractère que la nature a donné aux uns et aux autres pour leur conservation. Beaucire, disons-nous, était sorti ce jour-là pour chasser le lièvre. Il trouva un vol de perdrix qui lui fit traverser une route. Voilà comment, en cherchant autre chose que ce qu'il eût dû chercher, il trouva ce qu'il ne cherchait pas. Les agents cherchaient aussi Oliva, et ils trouvèrent Beaucire. Ce sont là les caprices ordinaires de la chasse. Un de ses limiers était homme d'esprit. Quand il eut bien reconnu Beaucire, au lieu de l'arrêter tout brutalement, ce qui n'eût rien rapporté, il fit le projet suivant avec son compagnon. Beaucire chasse. Il est donc assez libre et assez riche. Il a peut-être 5 à 6 louis en poche, mais il est possible qu'il ait 200 ou 300 louis à son domicile. Laissons-le rentrer à ce domicile, pénétrons-y et mettons-le à son. Beaucire, rendu à Paris, ne nous rapportera que 100 livres, comme toute prise ordinaire. Encore nous grondera-t-il d'avoir encombré la prison pour un personnage peu considérable. Faisons de Beausire une spéculation personnelle. Ils se mirent à chasser la perdrix comme Monsieur Beausire, le lièvre comme Monsieur Beausire, et appuyant les chiens quand c'était un lièvre, et rabattant dans la luzerne quand c'était à perdrix, ils ne quittèrent pas leur homme d'une semelle. Beausire, voyant des étrangers qui se mêlaient de sa chasse, fut d'abord très étonné, puis très courroucé. Il était devenu jaloux de son gibier, comme tout bon gentillâtre, mais il était aussi ombrageux à l'endroit de nouvelles connaissances. Au lieu d'interroger lui-même ses acolytes que le hasard lui donnait, il poussa droit à un garde qu'il apercevait dans la plaine et le chargea d'aller demander à ces messieurs pourquoi ils chassaient sur cette terre. Le garde répliqua qu'il ne connaissait pas ces messieurs pour être du pays, et il ajouta que son désir était de les interrompre dans leur chasse, ce qu'il fit. Mais les deux étrangers répliquèrent qu'ils chassaient avec leur ami, le monsieur là-bas. Il désignait ainsi Beausire. Le garde les conduisit à lui, malgré tout le chagrin que cette confrontation causait au gentilhomme chasseur. « Monsieur de Linville, dit-il, ces messieurs prétendent qu'ils chassent avec vous. »«
Avec moi ? » s'écria Beausire irrité. « Ah, par exemple !»«
Tiens, lui dit un des agents tout bas, vous appelez donc aussi Monsieur de Linville, mon cher Beausire ?» Beausire tressaillit, lui qui cachait si bien son nom dans ce pays. Il regarda l'agent, puis son compagnon, en homme effaré, crut reconnaître vaguement ses figures, et afin de ne pas envenimer les choses, il congédia le garde en prenant sur lui la chasse de ces messieurs.
« Vous les connaissez donc ? » dit le garde.
« Oui, nous venons de nous reconnaître, » répliqua un des agents.
Alors Beausire se trouva en présence des deux chasseurs, bien embarrassés pour leur parler sans se compromettre.
« Offrez-nous à déjeuner, Beausire, dit le plus adroit des agents, chez vous. »«
Chez moi, mais, s'écria Beausire, vous ne nous ferez pas cette impolitesse, Beausire. »
Beausire avait perdu la tête, il se laissa conduire bien plus tôt qu'il ne conduisit. Les agents, dès qu'ils aperçurent la petite maison, en louèrent l'élégance, la position, les arbres et la perspective, comme des gens de goût devaient le faire, et en réalité, Beausire avait choisi un endroit charmant pour y poser le nid de ses amours. C'était un vallon boisé, coupé par une petite rivière. La maison s'élevait sur un talus au levant. Une guérite, sorte de clocheton sans cloche, servait d'observatoire à Beausire pour dominer la campagne, au jour de spleen, alors que ses idées roses se fanaient et qu'il voyait des alguazils dans chaque laboureur penché sur la charrue. D'un seul côté, cette habitation était visible et riante, des autres, elle disparaissait dans les bois et les plis du terrain.
« Comme on est bien caché là-dedans !» dit un agent avec admiration.
Beausire frémit de la plaisanterie et entra le premier dans sa maison aux aboiements des chiens de cour. Les agents l'y suivirent avec force cérémonie. En entrant par la porte de la cour, Beausire avait son idée. Il voulait faire assez de bruit pour prévenir Oliva d'être sur ses gardes. Beausire, sans rien savoir de l'affaire du collier, savait assez de choses touchant l'affaire du bal de l'opéra et celle du banquet de Mesmer pour redouter de montrer Oliva à des inconnus. Il agit raisonnablement, car la jeune femme, qui lisait des romans frivoles sur le sofa de son petit salon, entendit aboyer les chiens, regarda dans la cour et vit Beausire accompagné, ce qui l'empêcha de se porter au-devant de lui comme à l'ordinaire. Malheureusement, les deux tourtereaux n'étaient pas hors des serres des vautours. Il fallut commander le déjeuner, et un valet maladroit, les gens de campagne ne sont pas des frontins, demanda deux ou trois fois s'il fallait prendre les ordres de madame. Ce mot-là fit dresser les oreilles aux limiers. Ils raillèrent agréablement Beausire sur cette dame cachée, dont la compagnie était pour un ermite l'assaisonnement de toutes les félicités que donnent la solitude et l'argent. Beausire se laissa railler, mais il ne montra pas Oliva. On servit un gros repas auquel les deux agents firent honneur, on but beaucoup, et l'on porta souvent la santé de la dame absente. Au dessert, les têtes s'étant échauffées, messieurs de police jugèrent qu'il serait inhumain de prolonger le supplice de leur hôte. Ils amenèrent adroitement la conversation sur le plaisir qu'il y a pour les bons cœurs à retrouver d'anciennes connaissances.
sur quoi Beausire, en débouchant un flacon de liqueur des îles, demanda aux deux inconnus à quel endroit et dans quelles circonstances il avait pu les rencontrer.
Nous étions, dit l'un d'eux, les amis d'un de vos associés lors d'une petite affaire que vous fîtes en participation avec plusieurs, l'affaire de l'ambassade du Portugal.
Beausire pâlit. Quand on touche à des affaires pareilles, on croit toujours sentir un bout de corde dans les plis de sa cravate.
« Ah, vraiment, dit-il en tremblant d'embarras, et vous venez me demander pour votre ami...
Ah, au fait, c'est une idée, l'alguazil à son camarade. L'introduction est plus honnête ainsi. Demander une restitution au nom d'un ami absent, c'est moral. »
De plus, cela réserve tout droit sur le reste, répliqua l'ami de ce moraliste avec un sourire aigre-doux qui fit frémir Beausire de la tête aux pieds.
Donc, reprit-il, donc, cher monsieur Beausire, il nous serait agréable que vous rendissiez à l'un de nous la part de notre ami, une dizaine de mille livres, je crois.
Au moins, car on ne parle pas des intérêts, fit le camarade positif.
Monsieur, répliqua Beausire, étranglé par la fermeté de cette demande, on n'a pas 10 000 livres chez soi, à la campagne.
Cela se comprend, cher monsieur, et nous n'exigeons que le possible. Combien pouvez-vous donner tout de suite?
J'ai 50 à 60 louis, pas davantage.
Nous commencerons par les prendre et vous remercierons de votre courtoisie.
Ah, pensa Beausire, charmé de leur facilité, ils sont de bien bonne composition. Est-ce que par hasard ils auraient aussi peur de moi que j'ai peur d'eux? Essayons. Et il se prit à réfléchir que ces messieurs, en criant bien haut, ne réussiraient qu'à s'avouer ses complices et que, pour les autorités de la province, ce serait une mauvaise recommandation. Beausire conclut que ces gens-là se déclareraient satisfaits et qu'ils garderaient un absolu silence. Il alla, dans son imprudente confiance, jusqu'à se repentir de n'avoir pas offert 30 louis au lieu de 60, mais il se promit de se débarrasser bien vite après la somme donnée. Il comptait sans ses hôtes. Ce dernier se trouvait bien chez lui. Il goûtait cette satisfaction béate que procure une agréable digestion. Ils étaient bons pour le moment parce que se montrer méchant les eût fatigués.
« C'est un charmant ami que Beausire, dit le positif à son ami. 60 louis qu'il nous donne sont gracieux à prendre. »«
Je vais vous les donner tout de suite !» s'écria l'hôte, effrayé de voir ses convives éclater en bachique familiarité.
Oh, « Rien ne presse, dirent les deux amis.
Si fait, si fait. Je serai libre de ma conscience après avoir payé. On est délicat ou on ne l'est pas. » Et il voulut les quitter pour aller chercher l'argent. Mais ces messieurs avaient des habitudes de recors, habitudes enracinées que l'on perd difficilement lorsqu'on les a une fois prises. Ces messieurs ne savaient pas se séparer de leur proie quand une fois ils la tenaient. Ainsi, le bon chien de chasse ne lâche-t-il sa perdrix blessée que pour la remettre au chasseur.
Le bon recors est celui qui, la prise faite, ne la quitte ni du doigt ni de l'œil. Il sait trop bien comme le destin est capricieux pour les chasseurs, et combien ce que l'on ne tient plus est loin. Aussi tous deux, avec un ensemble admirable, se mirent-ils, tout étourdis qu'ils étaient, à crier « Monsieur de Beausire, mon cher Beausire !» et à l'arrêter par les pans de son habit de drap vert.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Beausire. « Ne nous quittez pas, par grâce, » dirent-ils en le forçant galamment de se rasseoir.
« Mais comment voulez-vous que je vous donne votre argent si vous ne me laissez pas monter ?»«
Nous vous accompagnerons, » répondit le positif, avec une tendresse effrayante.
« Mais c'est la chambre de ma femme, » répliqua Beausire.
Ce mot qu'il regardait comme une fin de non-recevoir fut pour les sbires l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Leur mécontentement qui courait, un recors est toujours mécontent de quelque chose, prit une forme, un corps, une raison d'être.
« Au fait, cria le premier des agents, pourquoi cachez-vous votre femme ?»«
Oui, est-ce que nous ne sommes pas présentables ?» dit le second.
« Si vous saviez ce qu'on fait pour nous, vous seriez plus honnête, » dit le premier.
« Et vous nous donneriez tout ce que nous demandons, » ajouta témérairement le second.
Ah ça, mais vous le prenez sur un ton bien haut, messieurs, dit Beausire.
Nous voulons voir ta femme, répondit le sbire positif.
Et moi, je vous déclare que je vais vous mettre dehors, cria Beausire, fort de leur ivresse.
Ils lui répliquèrent par un éclat de rire qui aurait dû le rendre prudent.
Il n'en tint pas compte et s'obstina. Maintenant, dit-il, vous n'aurez même pas l'argent que j'avais promis, et vous décamperez.
Ils rirent plus formidablement encore que la première fois.
Beausire, tremblant de colère, « Je vous comprends, dit-il d'une voix étouffée, vous ferez du bruit et vous parlerez, mais si vous parlez, vous vous perdrez comme moi. »
Ils continuèrent de rire entre eux. Leur plaisanterie leur paraissait excellente. Ce fut leur seule réponse.
Beausire crut les épouvanter par un coup de vigueur et se précipita vers l'escalier, non plus comme un homme qui va chercher des louis, mais comme un furieux qui va chercher une arme.
Les sbires se levèrent de table et, fidèles à leurs principes, coururent après Beausire, sur lequel ils jetèrent leurs larges mains.
Celui-ci cria, une porte s'ouvrit, une femme parut, troublée, effarée, sur le seuil des chambres du premier étage.
En la voyant, les hommes lâchèrent Beausire et poussèrent un cri, mais de joie, mais de triomphe, mais d'exaltation sauvage.
Ils venaient de reconnaître celle qui ressemblait si fort à la reine de France.
Beausire, qui les crut un moment désarmés par l'apparition d'une femme, fut bientôt et cruellement désillusionné.
Le positif s'approcha de Mademoiselle Oliva et, d'un ton un peu trop poli, eu égard à la ressemblance,
« Ah, fit-il, je vous arrête. »«
L'arrêter ? » cria Beausire. « Et pourquoi ?»
Parce que monsieur de Crone nous en a donné l'ordre, repartit l'autre agent, et que nous sommes au service de monsieur de Crone.
La foudre tombant entre les deux amants les eut moins épouvantés que cette déclaration.
Voilà ce que c'est, dit le positif à Beausire, que de n'avoir pas été gentil.
Il manquait de logique, cet agent, et son compagnon le lui fit observer en disant
« Tu as tort, le grigneux, car si Beausire eût été gentil, il nous eût montré madame, et de toute façon, nous eussions pris madame. »
Beausire avait appuyé dans ses mains sa tête brûlante. Il ne pensait même pas que ses deux valets, hommes et femmes, écoutaient au bas de l'escalier cette scène étrange qui se passait sur le milieu des marches.
Il eut une idée, elle lui sourit, elle le rafraîchit aussitôt.
« Vous êtes venu pour m'arrêter, moi ?» dit-il aux agents.
« Non, c'est le hasard, » dirent-ils naïvement.
« N'importe, vous pouviez m'arrêter, et pour 60 louis, vous me laissiez en liberté. »«
Oh non, notre intention était d'en demander encore 60. »«
Et nous n'avons qu'une parole, » continua l'autre, « pour 120 louis, nous vous laissons libre. »
« Mais, madame, » dit Beausire tremblant.
« Oh, madame, c'est différent, » répliqua le positif.
« Madame vaut 200 louis, n'est-ce pas ?» se hâta de dire Beausire.
Les agents recommencèrent ce rire terrible que cette fois Beausire comprit, hélas.
« 300, » dit-il, « 400, 1000 louis, mais vous la laisserez libre. »
Les yeux de Beausire étincelaient tandis qu'il parlait ainsi.
« Vous ne répondez rien, dit-il. Vous savez que j'ai de l'argent et vous voulez me faire payer. C'est trop juste. Je vous donnerai 2000 louis, 48 000 livres, votre fortune à tous deux, mais laissez-lui la liberté.
»« Tu l'aimes donc beaucoup, cette femme ?» dit le positif.
Ce fut au tour de Beausire à rire, et ce rire ironique fut tellement effrayant. Il peignait si bien l'amour désespéré qui dévorait ce cœur flétri, que les deux sbires en eurent peur et se décidèrent à prendre des précautions pour éviter l'explosion du désespoir qu'on lisait dans l'œil égaré de Beausire.
Ils prirent chacun 2 pistolets dans leur poche et les appuyant sur la poitrine de Beausire.
« Pour 100 000 écus, dit l'un d'eux, nous ne te rendrions pas cette femme. Monsieur de Rohan nous la paiera 500 000 livres et la reine 1 million. »
Beausire leva les yeux au ciel avec une expression qui eût attendri toute autre bête féroce qu'un alguazil.
« Marchons, dit le positif, vous devez avoir ici une carriole, quelque chose de roulant. Faites atteler ce carrosse à madame, vous lui devez bien cela. »«
Comme nous sommes de bons diables, reprit l'autre, nous n'abuserons pas, on vous emmènera vous aussi pour la forme. » Sur la route, nous détournerons les yeux, vous sauterez au bas de la carriole, et nous ne nous en apercevrons que lorsque vous aurez 1000 pas d'avance. Est-ce un bon procédé, hein ?
Beausire répondit seulement, « Où elle va, j'irai, je ne la quitterai jamais dans cette vie. »«
Oh, ni dans l'autre, » ajouta Oliva, glacé de terreur. « Eh bien, tant mieux, » interrompit le positif, « plus on conduit de prisonniers à monsieur de Crône, plus il rit. »
Un quart d'heure après, la carriole de Beausire partait de la maison avec les deux amants captifs et leurs gardiens.